Vous savez, quand vous êtes parti de l'hosto, le médecin m'a dit « Est-ce que votre père veut assister à notre discussion ?» Il croyait que c'était vous, mon père.
Vous auriez aimé qu'il soit là, votre père ?
Non. Mais j'ai bien aimé qu'il pense que vous étiez mon père. Quand vous êtes parti, j'ai pensé que je vous avais pas payé la séance. Ça m'a stressée, j'aime pas devoir des choses aux gens. C'est intéressant que vous disiez ça.
L'argent est un tiers. Il y a vous, moi. L'argent qui nous lie. Mais l'argent, c'est aussi la valeur de mon travail. Et ça donne aussi une valeur à ce que vous dites.
Je vois pas trop le rapport.
Bah, peut-être que lorsqu'on vous aide comme je l'ai fait, ça crée chez vous un sentiment de dette qui vous met mal à l'aise. Comme si vous ne pouviez plus jamais rembourser. Mais l'argent est là pour que vous vous acquittiez de cette dette.
Et c'est censé me rassurer, ça? Vous allez me faire payer plus, c'est ça?
Ce que je vous dis, c'est que même si nous ne savons pas vraiment où nous allons, on y va ensemble. Sans que vous ayez à vous sentir redevable. Racontez-moi l'hôpital.
Quand vous êtes parti, ils ont fait plein d'examens. Et puis ils m'ont expliqué comment ça allait se passer à partir de maintenant. Que j'allais devoir faire une chimio toutes les 3 semaines. Déjà avec les résultats de la première séance, ils en sauront plus. Et puis ils m'ont prévenu pour les effets secondaires. Les cheveux, l'appétit, les nausées. Les maux de ventre, de tête. Après ça, j'ai dû faire encore plein d'examens, de scanners et tout ça.
Et comment s'est passée la première séance?
Franchement, j'étais presque soulagée. Je suis arrivée, je me suis installée et c'était parti. J'avais rien d'autre à faire que d'attendre que le traitement rentre dans mon corps. Pendant la chimio, ils m'ont mis un casque réfrigérant sur la tête. C'est pour ralentir la chute des cheveux. C'est assez ridicule, hein. C'est un peu comme un bonnet de bain, mais gonflé. Ça me faisait une tronche de montgolfière, vous auriez dû voir ça. Enfin bref. À côté de moi, il y avait une femme qui avait aussi le casque sur la tête. Et comme je galérais à mettre le mien, elle m'a aidée. Elle s'appelle Émilie. Et je sais pas... De nous voir comme ça, toutes les deux... Je me suis dit que j'avais vraiment plus rien à perdre. Pas même ma dignité.
Vous avez toute votre dignité.
Antoine m'avait laissé un message le jour où on s'était disputé devant votre cabinet. Je l'avais jamais ouvert. Là, je l'ai regardé tout à l'heure dans votre jardin. C'est un lien vers une chanson d'Aloïse Sauvage. « Si on s'aime ». À un moment, elle dit « Ton parfum qui m'entoure, c'est bien plus qu'une armure, mon amour. » Vous trouvez ça complètement con?
Non, pas du tout. Le mot armure résonne particulièrement, non?
Quoi, on va jouer avec les mots, là?
Peut-être. Qu'est-ce que vous entendez?
Il y a de l'art. Et il y a un mur.
C'est déjà pas mal pour une architecte.
Un mur que je suis en train de franchir ou de faire tomber. Merci d'être venu avec moi à l'hôpital. J'y serais jamais allée sans vous.
Ça, c'est pas certain.
Vous regrettez de m'avoir emmenée?
Non, je ne regrette pas du tout.
Mais c'est pas normal pour un psy de faire ça.
Vous avez raison. Pourtant, si quelqu'un se noie sous nos yeux, on saute dans l'eau pour le sauver, non?
Après l'hosto, j'ai passé une nuit horrible. Je voulais vous appeler, mais j'ai pas osé. J'ai fini par appeler Selma.
Selma? Qui est Selma?
C'est fou, je me rends compte que c'est la première fois que je vous parle d'elle. C'est ma meilleure amie. Je sais pas pourquoi je vous en ai jamais parlé.
Qu'est-ce que vous lui avez dit à Selma?
J'avais fait un cauchemar horrible. J'étais déjà morte. Enfin non, pas vraiment, mais... J'étais sur le point de mourir, quoi. J'avais une fièvre de malade. J'étais vraiment paniquée. Je pensais que j'allais y passer. Du coup, j'ai appelé Selma. Et 10 minutes après, elle était chez moi. Dès qu'elle m'a vue, elle a appelé le SAMU. Dans l'ambulance, les infirmiers m'ont posé plein de questions. Et Selma était juste à côté. Elle me tenait la main. Elle pleurait. On m'a demandé si je suivais des traitements. J'ai dit que oui, que j'étais en chimio. Selma, elle était tellement choquée. Et la pauvre.
Pourquoi vous dites la pauvre?
Imaginez, je suis sa meilleure amie, je l'appelle en pleine nuit, je suis en train de crever. Elle apprend que j'ai un cancer, c'est flippant quand même, non? Elle arrêtait pas de me dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Elle était pas en mode culpabilisatrice, hein? Juste, elle m'aimait. Moi, je me sentais mal. Je faisais que m'excuser, mais elle continuait à pleurer. Et tout d'un coup, je sais pas comment, mais j'ai senti une sorte de force en moi. Et je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, hey, maintenant t'arrêtes de pleurer. T'inquiète pas, je vais pas mourir. Et là, elle s'est arrêtée de pleurer. Et elle avait l'air tellement reconnaissante.
Peut-être qu'elle était soufflée que vous soyez capable de cet effort pour elle. De la rassurer, elle, alors que vous étiez en danger, vous.
Ouais, mais je voulais la rassurer. C'est mon amie.
Pourtant, vous ne lui aviez pas parlé de votre cancer.
Non. Je voulais pas la déranger. Sa mère est morte quand on était en troisième. Et ça m'avait peiné quand j'avais appris qu'elle était malade, sa mère. Parce que Selma, c'est la personne la plus joyeuse que je connaisse. Quand elle pleurait dans l'ambulance, je me suis dit que c'était un peu pour moi, mais surtout pour sa mère. Et c'est ça qui m'a donné le courage de lui dire ce que je lui ai dit, je crois.
Vous savez, Lydia, la réaction de Selma quand vous l'avez appelée, elle me rappelle celle d'Antoine quand il a appris pour votre cancer. Tous les deux, sans hésiter, ils sont venus vous secourir.
J'ai de la chance, faut croire.
Je pense pas qu'il s'agisse là de chance. Vous exigez peut-être une loyauté sans faille de vos amis. Ils sont vos amis parce que vous pouvez compter sur eux, quoi qu'il arrive.
Mais moi aussi, je suis hyper loyale avec eux. S'ils avaient une merde, j'arriverais direct. Je comprends pas c'est quoi le problème.
Je me demande juste pourquoi vous vous trouvez des amis loyaux et fidèles, alors qu'une fois que vous avez besoin d'eux, vous ne les sollicitez pas.
Mais Selma, je l'ai sollicité puisque je l'ai appelée.
Vous avez attendu une situation extrême pour demander de l'aide.
Oui, mais peut-être que si je l'avais trop sollicité avant, mais elle serait pas venue cette fois-ci et...
Vous semblez penser qu'il y a une quantité limitée d'aide qu'une personne peut vous offrir, comme un forfait. Et une fois cette limite atteinte, c'est terminé. C'est comme si vous deviez économiser l'attention de vos amis. Pourtant, si Selma avait un cancer, vous ne seriez pas du genre à comptabiliser votre aide, non? Comme vous n'avez jamais cessé de vous occuper de Noah.
Non, mais je sais pas, c'est comme ça, c'est tout. C'est une déformation professionnelle.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je suppose que tous les gens qui ont des proches malades s'habituent à s'occuper des autres. Je suis pas habituée à ce qu'on s'occupe de moi.
Vous savez, quand un enfant exprime un besoin auquel son père ou sa mère ne répond pas, il finit par ne plus l'exprimer du tout. Et si cet enfant n'a plus les mots, il n'a plus les pensées.
Je vous suis plus là.
C'est le langage qui rend réelles les choses abstraites, comme les sentiments. En ne les nommant pas, les sentiments disparaissent. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'un mécanisme se serait mis en place au fil des années qui vous aurait désappris à demander de l'aide?
Je sais pas.
Demander de l'aide, c'est accepter ses fragilités. C'est oser dire « j'ai besoin de toi ». Faut une grande force pour accepter d'avoir besoin de l'autre.
Il faut que je réapprenne à demander de l'aide, c'est ça?
Oui.
Ça me fatigue d'avance. Vous savez que les femmes, elles ont le sein gauche plus gros que le droit. C'est à cause du cœur, de l'afflux de sang. C'est Antoine qui m'avait raconté ça. Il aimait bien mes seins. L'oncologue m'a parlé de l'ablation de mon sein. Je dois pas prendre la décision tout de suite, mais les médecins ils m'ont tous dit d'y réfléchir. J'ai jamais été contente de mon corps. Je trouve que j'ai pas le ventre assez musclé, que j'ai les fesses trop plates. J'ai pas assez de poitrine aussi. Mais si un jour on m'avait dit que j'en aurais plus du tout... En fait, je sais pas comment je vais faire si on m'enlève un sein.
Vous savez qu'il existe une chirurgie réparatrice?
Ouais, avec les tatouages des tétons et tout ça, mais... Je sais que je vais peut-être devoir changer d'avis, mais... Là, tout de suite, c'est pas possible pour moi. Je me sens pas du tout à ma zone. Et puis, j'arrête pas d'imaginer cette scène où je me déshabille et il me manque un sein. Et puis c'est bizarre parce que moi, je veux pas d'enfant et depuis qu'on m'a parlé de l'ablation, j'arrête pas de repenser à ma tante... Quand elle a eu ma cousine, elle l'a allaitée hyper longtemps, ça m'a marqué. Je me souviens, je regardais ses seins, je les trouvais magnifiques. Je rêvais d'avoir les mêmes quand je serais grande. Je sais pas pourquoi je vous parle de ma tante. Je suis perdue, là.
Peut-être on vous enlèvera un sein. Mais votre force, elle n'est pas dans votre sein. Vous vivez un bouleversement profond. C'est important que vous appreniez à habiter votre corps. Ça prendra du temps.
J'ai commencé à perdre mes cheveux. Pour l'instant, c'est que des petites touffes, hein, mais... C'est le début des emmerdes, quoi. Je vous préviens, je vais me raser les cheveux avant d'avoir des petits trous partout, là. Je préfère prendre les devants. Et après, j'irai faire du shopping. J'achèterai des foulards, des chapeaux. Il y a un tas de meufs qui ont l'air cool avec le crâne rasé. Je suis pas sûre d'être comme elles, mais...
Quand vous me racontez tout ce que vous avez traversé, comment vous l'affrontez, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous ne pensez.